Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, deux mythes, James Dean et Marilyn Monroe. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Donc, deux mythes, pourquoi ? Parce que, effectivement, James Dean, qui a une carrière très courte, et Marilyn Monroe, qui a une carrière courte, mais un peu plus longue, ont marqué le XXe siècle et sont restés dans l'histoire comme des personnalités exceptionnelles. Alors, est-ce qu'ils étaient de bons acteurs ? On peut en discuter. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont eu les deux caractéristiques fondamentales du mythe, c'est-à-dire la mort jeune et des questions relatives à la sexualité. Ça, c'est obligatoirement deux éléments qui touchent les mythes. Alors, pour la mort, en fait, James Dean partait faire une compétition automobile et sur la route, il a eu un accident. Donc, il roulait, alors on discute, est-ce qu'il roulait à 100, 150, moins. En tout cas, il a percuté une voiture et donc il est décédé. Donc, cette mort brutale, pour le moins, fait de ce jeune acteur de 24 ans un mythe. Il aura tourné quatre films non crédités au générique, dans des très 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 petits rôles, et trois films importants où il occupe le devant de la scène. Marilyn Monroe, c'est un peu plus grave par rapport aux circonstances de sa mort, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une déchéance progressive avec la drogue, l'alcool, etc. etc. Donc, une mort moins brutale, mais effectivement, qui va marquer les esprits. D'autant plus que si la mort de James Dean ne fait aucun doute quant à son caractère entre guillemets naturel, la mort de Marilyn Monroe a toujours fait l'objet de thèses différentes, de complots, etc. etc. C'est un peu comme une autre personnalité qui est Lady Di, bon, personnalité qui a été montée par les médias et qui avait quand même un certain nombre de défauts. Donc Marilyn Monroe, elle, a eu des problèmes très vite et c'est cette difficulté psychiatrique qui a pu être à l'origine de son décès dans la mesure où on hésite entre suicide volontaire, excès de médicaments involontaire. Il y a eu la thèse, alors là aussi ça renforce le mythe, comme elle a été la maîtresse de Kennedy et aussi apparemment de son frère, on dit qu'ils étaient venus la voir mais qu'il y avait un problème et que donc on avait voulu masquer ce que les Kennedy auraient fait. Il est certain qu'elle a été la maîtresse de Kennedy, mais pour autant, le fait que ceci l'ait fait assassiner, on ne sait pas trop bien pourquoi, a toujours été repoussé. Donc l'analyse aujourd'hui, c'est une mort plutôt par barbiturique, hein, par mélange alcool-barbiturique. Donc mort qui est une mort jeune, hein, accident violent et suicide ou excès de barbiturique. Et il y a aussi la question de la sexualité. Alors la question de la sexualité, quelle était la sexualité de l'un ou de l'autre ? Alors James Dean, cela a été caché parce qu'à l'époque on ne voulait pas le dire, c'était l'homosexualité ou la bisexualité. Donc les biographes les plus récents considèrent qu'il y a une bisexualité et qu'il aurait été aussi touché dans son enfance par des abus sexuels. Donc incertitude là aussi, il aurait confié à certains, pas à d'autres. Elizabeth Taylor, qui était son amie, dit qu'il aurait peut-être eu ces attouchements. Bon. Alors pour Marilyn Monroe, la situation est plus connue. Elle a eu, c'est la réalité, de nombreux amants. Et elle a eu de ce côté-là une existence assez triste, puisqu'elle s'est mariée trois fois. Une fois quand elle avait 16 ans, et ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, avec un célèbre joueur de baseball, Joe DiMaggio. Et enfin, avec le dramaturge Arthur Miller. Et on a opposé parfois, pour le dernier couple, Arthur Miller, écrivain, auteur de théâtre intellectuel, et Marilyn Monroe qui n'aurait pas, entre guillemets, le niveau, si je puis utiliser une expression familière. Donc cette abondance de mariages, trois mariages, bon, pour une actrice, c'est pas terrible, si on est un peu cynique, et de nombreuses liaisons avec ceux de ses partenaires ou même d'autres personnes. Donc ce sont deux éléments qui apparaissent comme manifestant un petit peu la construction du mythe. Le mythe se construit à partir de cette situation. S'il y a une mort brutale, il y a aussi le club des 27 qui avait été mis en place pour des personnes qui étaient mortes avec aussi suicide, barbiturique, etc. Donc ce qu'il faut retenir, James Dean et Marilyn Monroe, c'est ce qu'on va évoquer maintenant, c'est-à-dire la carrière artistique. Et avec Marilyn Monroe, on est obligé forcément de passer sa chanson. La sélection est difficile. J'en ai gardé un petit nombre. Nous avons celle-ci qui est dans le milliardaire. Alors, je ne le dis jamais en anglais parce qu'on pourrait me reprocher ma prononciation. Mon cœur appartient à mon papa, le milliardaire. Trois films importants pour James Dean. mais il a fait 4 apparitions, des apparitions assez courtes. Alors même si les films sont réalisés par des réalisateurs célèbres, Samuel Fuller, Douglas Sirk, Michael Curtis, bon, il n'y a pas de réel intérêt d'avoir passé pendant une minute James Dean. Par contre, il va occuper l'affiche avec Alès d'Éden en 1955 d'Elia Kazan, La Fureur de Vivre en 1955 de Nicolas Ray et Géant en 1956 de George Stevens. 3 films avec des tonalités totalement différentes. Alès d'Éden, c'est véritablement un drame, c'est-à-dire que James Dean joue le fils d'un homme qui est assez violent et il a dit à ses enfants que leur mère était morte. Alors en réalité, il va apprendre qu'elle est partie à la naissance et que finalement, si James Dean est maltraité par son père de manière psychologique, de manière violente à ce niveau-là, c'est parce que peut-être son père voit à travers lui sa mère. Donc, difficulté. Il apprend que sa mère n'est pas morte. Et il décide d'aller la voir. En réalité, elle tient une sorte de maison close, pour dire ce qui est. Et il va osciller entre sa mère donc et vouloir rechercher son amour et essayer aussi de regagner l'amour de son père. Donc difficulté parce que tout cela ne va pas vraiment bien marcher. Et le personnage, j'aime dire, est torturé. Il souffre. Il a une difficulté à vivre. Donc, Alès d'Éden, Elia Kazan est un grand réalisateur qui avait tourné des films à Brando en particulier. Je précise cela parce qu'on a souvent comparé James Dean à des acteurs de sa génération qu'il aurait copié, ou peut-être qu'il aurait copié lui, comme Brando notamment, et quelques autres, avec une coiffure qui, à l'époque, est aussi marquée par Elvis Presley ou Tony Curtis, cette fameuse coiffure de cheveux relevés en arrière. Donc, Alès d'Éden, drame, très beau film. La Fureur de Vivre, c'est Nicolas Ray. Là aussi, Nicolas Ray a tourné de grands films hollywoodiens. C'est un grand metteur en scène. La Fureur de Vivre, c'est vraiment le film de jeunes de l'époque, pour être un peu caricatural. On suit un groupe de jeunes adolescents et leurs difficultés existentielles. Il y a la course en voiture qui est faite le soir l'un contre l'autre, donc classique qu'on retrouvera dans de très nombreux autres films. Et il y a l'opposition entre les individus. Donc, La Fureur de Vivre, c'est un film qui est vraiment marqué. On a quand même du mal à le voir aujourd'hui, mais qui symbolise toute une époque et qui symbolise toute une jeunesse qu'on pourrait appeler, entre guillemets, blouson noir ou semi-délinquance, en tout cas voulant vivre autrement que la génération précédente. La Fureur de Vivre, donc. Et le film que l'on peut le plus discuter, c'est Géant. Alors, Géant, c'est George Stevens, qui est un metteur en scène moins connu, mais qui est quand même tout à fait honorable. Et le film se passe sur une trentaine d'années. On suit un couple qui est joué par Rock Hudson et Elizabeth Taylor et un arriviste joué par James Dean. Alors le couple Rock Hudson et Elizabeth Taylor est original dans la mesure où dans la vie, Elizabeth Taylor va devenir vraiment la confidente de beaucoup d'homosexuels. Et c'est elle qui, au départ, au début des années 80, va mettre en place au niveau américain le site d'action qui sera repris en France. Il faut savoir que tout ce qui est fait aux États-Unis est repris en France, y compris les jeux, avec les mêmes décors, etc. Bon, mais peu importe. Donc, Elizabeth Taylor a été la confidente de plusieurs homosexuels qui étaient cachés à l'époque. Il ne fallait surtout pas dire qu'on était homosexuel. Les studios organisaient des faux mariages pour rejeter cette approche critique de la part des journalistes. Rock Hudson, en particulier, était homosexuel et on l'a toujours caché. Et spectatrices qui étaient amoureuses de Rock Hudson ont été, parce qu'elles étaient quand même d'un âge certain, effondrées en sachant que Rock Hudson, au début des années 80, a été un des premiers artistes à mourir du sida. Donc effectivement, on l'a vu maigrir et finalement décéder. Et on a su à ce moment-là qu'il était homosexuel. Alors progressivement, ça a été accepté dans la société. Mais il faut savoir qu'autrefois, que ce soit la France ou les États-Unis, ne parlons pas d'Afrique ou d'Asie où c'est encore prononcé, l'homosexualité est rejetée. Quoi qu'il en soit donc, le couple qui est constitué par Rock Hudson et Elizabeth Taylor, sont les deux vedettes du film. Mais James Dean intervient aussi de manière importante. Alors, il joue un personnage qui va faire son argent petit à petit grâce à l'industrie. Et il aura dans le film une place qui est finalement assez critique, parce qu'il vieillit mal, il va être odieux. Et le problème de ce film, c'est que le vieillissement a été fait grâce à des procédés qui sont complètement ridicules aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a les cheveux noirs qui sont parsemés de blanc, donc les mêmes coiffures, les mêmes natures de cheveux pour les différents acteurs. Et le roi du pétrole, si je peux dire, pour James Dean, va, au-delà de son maquillage, peut-on dire, va être vraiment caricatural dans son jeu. C'est pour ça qu'on peut discuter parfois sur les qualités d'acteur James Dean, dans la mesure où il a fait effectivement trois films. Donc trois films, ça va, on l'identifie, on le reconnaît. On lui a même donné un Oscar à titre posthume, alors que dans le film Géant, il est vraiment très très proche de la caricature. Donc, une carrière courte, la mort, et il devient un mythe, alors même que s'il avait continué à vivre et continué sa carrière, à mon avis, ça serait passé autrement. Il aurait eu moins de succès que ce qui a été fait pour ces trois films qui sont devenus le symbole absolu de la jeunesse qui se révolte. Alors restons sur Marilyn Monroe, parce que toutes les chansons ne peuvent pas être présentées, mais il y a une chanson qui est tout à fait connue, qui est dans certains M Show et que vous reconnaîtrez obligatoirement. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Daphne, your boyfriend's waving at you. Can both go take a flying jump. Remember, he's your date for the night, so smile. Oh, you can do better than that. Give him the teeth, the whole personality. Why let you talk me into these things? Why?
Because we're pals, buddies, the two musketeers.
Don't give me with the musketeers. How am I going to keep the guy ashore?
Tell him you get seasick on a yacht, play miniature golf with him.
Oh, no, I'm not going to get caught in the miniature sand trap with that guy.
Hi, which of you dolls is Daphne?
Beau Fettle.
It's from Satchel Moth at table 7. This is from me to you, doll.
Read it, Buster.
Never mind leaving your door open. I got a pass key.
If I couldn't aspire to
anything. What are you doing with my flower?
Just borrowed. Get them back tomorrow.
And to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the deedly 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 dum, boop boop doop.
Certains l'aiment chaud. Maintenant, on va partir de ce film-là. C'est un film qu'elle tourne 3 ans avant sa mort et qui est extraordinaire. C'est avec Billy Wilder, avec ce film, essaie de tourner la censure du code Hays. Il y avait depuis les années 30 un code Hays interne à l'industrie du cinéma pour éviter qu'il y ait des images choquantes, notamment au niveau sexuel. Et Billy Wilder va être un des premiers à le remettre en cause. Et les héros de certains Lame Show, c'est Tony Curtis et Jack Lemmon qui vont se travestir en femme pour échapper à un bandit. Donc, ils rentrent dans un orchestre féminin dans lequel joue Marilyn Monroe. Et Tony Curtis va tomber amoureux de Marilyn Monroe. sauf qu'elle le prend pour une femme. Donc, à un moment donné, il va jouer une sorte de milliardaire avec un yacht et il va essayer de la séduire. Et il y aura une séduction dans une cabine du bateau. Alors là, une anecdote, à cette époque-là, et c'est le problème de Marilyn, elle sera toujours en retard, elle fait ses caprices, et finalement, tous les réalisateurs et tous les acteurs finissent par la détester, même si après, ils le regrettent un petit peu. Et Tony Curtis a une phrase terrible, encore une fois, lui aussi l'a retirée après, il a dit « Embrasser Marilyn Monroe, c'est comme embrasser Hitler ». Donc là, effectivement, on tombe de haut, et c'était une manière de dire « Attention, elle est vraiment impossible à gérer ». Donc, certains l'aiment chaud, vraiment succès et originalité dans le film qui porte sur ce thème du travestissement qui n'avait jamais été abordé de manière aussi longue. Donc, certains l'aiment chaud, c'est la fin de sa carrière, mais il faut dire que sa carrière a débuté alors qu'elle avait à peine une vingtaine d'années, dès 1947. Et cette carrière donc sera chaotique et surtout marquée par les dernières étapes de sa vie, où elle va échapper à tout contrôle. Alors, il y a un film qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Blonde, et effectivement, Marilyn Monroe n'était pas blonde, mais comme toutes les actrices hollywoodiennes, le studio va la teindre en blonde, et souvent d'ailleurs, ces teintures blondes se ressemblent d'une actrice à l'autre, donc c'est un petit peu interchangeable. Quoi qu'il en soit, donc, elle va jouer pendant une, on peut dire moins d'une dizaine d'années, 7-8 ans, des rôles vraiment secondaires, mais qui sont parfois marquants. C'est-à-dire un film joué par les Marx Brothers qui s'appelle La pêche au trésor, où elle apparaît quelques minutes, mais elle marque vraiment le film. De même, Quand la ville d'or de John Huston, pareil, très peu de temps, mais elle marque le film. Autre film, Chérie, je me sens rajeunir, une comédie assez célèbre de War Dogs, et même chose. Alors, elle va arriver au rôle important à partir du début des années 50, notamment avec Niagara, un film d'Harry Hathaway. Et on a ici le début de la véritable carrière qui va s'étaler sur une dizaine d'années et qui va conduire à faire des films qui sont restés dans l'histoire, soit que le réalisateur soit célèbre, soit que finalement tout repose sur Marilyn Monroe et elle reste présente dans ses films. Donc les films de la seconde partie de sa carrière, on va essayer de les résumer un petit moment. Mais je reviens un petit peu en arrière au niveau de la musique et on va écouter la musique d'Alès d'Éden, qui était le film que l'on a cité de James Dean. Thank you. Entre 1952 et 1962, c'est là où Marilyn va tourner ses films les plus célèbres. Alors, il y a, pour préciser son évolution, l'appel à Paula Strasberg comme répétitrice et comme référence sur son jeu dans telle ou telle scène. Il y avait Lee Strasberg qui était le responsable de l'Actor Studio, et Paula Strasberg qui est son épouse va prendre en charge Marilyn Monroe. Alors dès qu'il y a un film, vous savez qu'il y a plusieurs prises dans, pour un plan, et Marilyn Monroe à chaque fois se tourne vers Paula Strasberg pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Et même si tout le monde estime que c'est bon, elle peut réagir en disant « Non, il faut que je la retourne parce que c'est pas très bon ». Donc déjà, la présence permanente de ce coach personnel sur le plateau peut énerver. Et puis progressivement, c'est à partir de cette époque où elle va commencer à alterner barbiturique et alcool. Elle est de plus en plus sous l'emprise de ces barbituriques. Et bien sûr, cela va nuire à son jeu et nuire à son caractère incontrôlable dont je disais tout à l'heure qu'il repoussait les réalisateurs et les acteurs. Parce qu'elle arrive ou elle n'arrive pas, donc elle vient ou pas sur le plateau, c'est un caprice qui peut apparaître, je viens ou je ne viens pas, et ensuite si je viens, je ne suis pas certain de savoir tout, de savoir le texte, de savoir me placer, etc. Et c'est cela qui énerve les réalisateurs et qui les fait décider de ne plus retourner avec Marilyn Monroe et de lui faire une réputation absolument abominable. Alors les films, le tournant de ces films, c'est Niagara qui est un film assez sérieux que j'évoquais tout à l'heure, mais surtout deux films plus légers, Les Hommes préfèrent les blondes de War Dogs et Comment épouser un millionnaire de Jean d'Aguilescu. C'est en 1953 tous les deux. Et là, on a vraiment la caricature de ce que j'appellerais entre guillemets la blonde. Hein, la blonde, c'est ici caricatural. Alors, on a utilisé ce terme pour ce téléfilm dont je parlais tout à l'heure. Et c'est tout à fait justifié. Donc il y a une attitude de Marilyn et de ses copines qui choquerait ou qui épouvanterait aujourd'hui des féministes, c'est-à-dire qu'elles cherchent à se faire épouser par un millionnaire et elles veulent absolument avoir la réussite matérielle avec notamment les diamants. On va y revenir tout à l'heure. Donc ces deux films, c'est vraiment un tournant dans sa carrière. Deux films dans lesquels l'image de la femme n'est pas tellement valorisée. Il y a Rivière sans retour d'Otto Preminger, qui est un réalisateur assez directif et qui va avoir du mal avec Marilyn Monroe, comme l'acteur principal qui est Robert Mitchum. Tous les deux seront effectivement un petit peu choqués ou gênés par Marilyn Monroe. Alors Billy Wilder, avec lequel elle fera certains lames chauds, elle tourne 7 ans de réflexion. 7 ans de réflexion, c'est une image caricaturelle du mal américain. C'est-à-dire que le mal américain, il est là, sa femme et ses enfants sont partis, et il va tomber en admiration devant la blonde qui habite dans l'immeuble. Et donc la réflexion, c'est est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je ne le fais pas ? Donc le dilemme sera important, et surtout, c'est là qu'il y a la fameuse scène que tout le monde connaît, c'est-à-dire les jupes de Marilyn Monroe qui se soulèvent au-dessus de la bouche de métro, dans l'air du métro fait soulever ses jupes. Et elle a, paraît-il, fait de nombreuses prises. Quoi qu'il en soit, si on demande à une personne de citer une image, c'est toujours cette image qui sera citée. C'est resté vraiment pour la postérité. Donc le talent de Marilyn Monroe n'est pas totalement incontestable, mais comme elle va sombrer dans cette difficulté d'alcool barbiturique et cette domination par Paula Strasberg, effectivement, cela soulève des problèmes. Alors, je parlais des hommes préfèrent les blondes. On va écouter aussi un morceau classique. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but but won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at
Je vais en arriver au dernier film que Marilyn a tourné. Alors, un film qui est peu connu, mais qui a un élément intéressant, c'est 1957, Le Prince et la Danseuse, réalisé par Laurence Olivier. Alors, l'élément intéressant, c'est que Laurence Olivier est le plus grand acteur anglais de théâtre, et donc il a une rectitude, il a une rigueur, il connaît son texte, etc. Or, déjà, Marilyn Monroe a des problèmes, elle n'arrive pas, elle ne sait pas son texte, et Laurence Olivier est ulcéré. Il y a cette opposition qui peut se produire par ailleurs entre l'acteur de théâtre qui connaît son texte, qui est équilibré, qui a tout un répertoire derrière lui, et l'acteur de cinéma qui est inculte, qui joue à l'instinct et qui ne maîtrise pas véritablement son art. Donc en l'espèce, Laurence Olivier a été choqué par Marilyn Monroe et il n'a pas réalisé vraiment un véritable bon film. Je passe sur Certains l'aiment chaud qui est évoqué tout à l'heure, qui est vraiment un des films les plus réussis qu'elle ait pu faire. J'arrive sur Le Milliardaire. Alors, Le Milliardaire 1960, ce n'est pas extraordinaire. C'est simplement connu dans l'histoire pour la rencontre entre Yves Montand et Marilyn Monroe. Alors, cette rencontre a débordé sur le plan que vous connaissez. Et du coup, Simone Signoret, qui était en France, a appris ce qui pouvait se passer et a dit finalement, Marilyn Monroe a du goût puisqu'elle a choisi mon mari. Quoi qu'il en soit, ça a bien évidemment perturbé le couple, mais peut-être Marilyn aussi, qui s'est retrouvée, comme d'habitude, écartée. Donc le film, qu'un film de Georges Cukor, n'est pas vraiment un des meilleurs que celui-ci ait tourné. Georges Cukor, d'ailleurs, Marilyn Monroe a eu des difficultés avec lui, alors que d'habitude, Georges Cukor, qui est homosexuel, arrive à tourner parfaitement en harmonie avec les femmes. Là, ça n'a pas marché, ça n'a pas coïncidé avec Marilyn Monroe, qui là aussi s'est un petit peu révolté. Alors le dernier film tourné, c'est Les Désaxés. Alors Les Désaxés, c'est un film d'un grand réalisateur qui s'appelle John Huston, avec Clark Gable et Marilyn Monroe, plus Montgomery Clift. Donc Montgomery Clift et Clark Gable font des cow-boys qui capturent des chevaux mais elle la prendra à la fin pour les vendre aux abattoirs. Ce qu'apprend Marilyn à la fin, finalement, ça la choque, elle veut les libérer, et ça coupe tout le mythe qu'il pouvait y avoir du cowboy. Alors après ce film, Clark Gable est mort, puis Marilyn Monroe aussi ne va pas tarder, et on a considéré qu'il y avait un aspect un petit peu maudit dans ce film, parce que Montgomery Clift aussi va mourir rapidement. Donc ça, c'est le dernier film tourné. Alors, un mot sur une œuvre qui est inachevée. Le film est intitulé « Something Got to Give » de 1962, et le film devait être tourné là aussi par George Cukor. Alors, le fait est que Marilyn est venue faire quelques tours sur le plateau, mais on tournait au départ des scènes qui étaient sans elle pour avancer quelque peu. Finalement, le film reste inachevé. Dean Martin, qui est la vedette masculine, ne veut pas accepter de le reprendre. Puis il y a des procès qui s'engagent entre le studio et Dean Martin pour rembourser des crédits, etc. Donc ça devient une affaire de gros sous. Et quoi qu'il en soit, Marilyn disparaît. Elle n'est plus au centre du débat, vu que finalement le film est interrompu. Donc voilà pour ces deux mythes, puisqu'effectivement James Dean est devenu un mythe et Marilyn Monroe aussi. Marilyn Monroe peut-être plus que James Dean, parce qu'il y a eu des peintures d'Andy Warhol, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui Marilyn Monroe est plus connue peut-être que James Dean. Mais ce sont deux trajets différents. Trois grands films pour l'un, mort à 24 ans, et plusieurs films pour l'autre, mort à 37 ans, qui seront quand même retenus par l'histoire du cinéma, au-delà même de ce qu'elle a pu subir. Même si son jeu, il faut le reconnaître, je serai un petit peu aussi, peut-être un peu critique, je trouve que Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, c'est un petit peu la même chose. Elles n'ont pas toujours joué de manière parfaite. Brigitte Bardot, c'est pas, à mon avis, une grande actrice avec une diction qui est un petit peu fausse, etc. Donc Marilyn reste dans l'histoire. Elle a fait de nombreux films, mais un très petit nombre va subsister. Donc voilà pour ces deux mythes. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais ceux-là sont particulièrement précis et importants. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Amada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie, ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.